Priorité au direct, nous sommes aux Pays-Bas, à La Haye, où le président de la République est en visite d'État, visite de deux jours. Et on le voit discuter avec notre reporter Mathieu Coache, reporter de BFM TV, suite à l'incident qui a été vécu il y a une heure maintenant, un petit peu plus d'une heure, au sein de l'université, où le discours du chef de l'État a été interrompu par des étudiants, par des manifestants qui voulaient l'interpeller sur... Je ne sais pas si on arrive à entendre.
C'est un pays qui est en train de bouger avec nous. C'était pas natif. Mais demain, je répondrai à vos questions sur Taïwan.
Voilà. Il a l'air d'être souriant et détendu, le président Macron, malgré cet incident, parce que c'est un discours très attendu. Alain Duhamel, le chef de l'État, voulait parler de l'Europe, de la souveraineté européenne. On retiendra surtout ces jeunes qui ont perturbé son discours sur deux thèmes, à la fois la réforme des retraites, il lui reproche de ne pas écouter les manifestants, mais aussi l'écologie, puisque la convention sur le climat, la convention citoyenne, a été citée par ces manifestants.
Bah écoutez, c'est un incident qui n'est pas en sa faveur. Bon, ça prouve qu'on est dans un continent démocratique,
oui,
quand même.
Mais pas en Chine.
Des étudiants, bon, ni en Chine, ni en Russie, ni dans les trois quarts des pays. Et quand je dis les trois quarts, je suis optimiste. Mais bon, il faut bien reconnaître que c'est pas très positif pour lui. Ça n'est pas que les étudiants étaient nombreux. On a bien vu dehors, s'ils étaient 50, ça devait être le maximum.
Mais c'était pas non plus très agressif.
Et c'était pas... Non, c'était, ils l'ont pas aspergé.
Non.
Bon, bah, il n'empêche que c'est quand même un incident à son détriment. On va pas dire le contraire. Il voulait prononcer un discours. Est-ce que le discours a été bon? On peut en discuter. Mais c'était un discours qui était ambitieux dans son principe et qui voulait reprendre la suite du fameux discours de la Sorbonne. Bon, bah, personne ne s'occupera de son discours. Ça, c'est fini. Et il reste que, même quand il va en voyage d'État, ce qui est de plus protocolaire. Même quand c'est un voyage d'État, eh ben, il est agressé sur la réforme des retraites, sur l'écologie, etc. Bon, je dirais que il est incandescent, incontestablement, dans cette période.
Les temps sont compliqués pour le président Macron, Natacha Polony. Bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Bonsoir.
C'est tout le paradoxe de ce président qui est arrivé en 2017 jeune, auréolé de son image d'Européen et qui se faisait fort d'aller parler aux jeunesses européennes. C'est-à-dire que la spécialité d'Emmanuel Macron, d'ailleurs pas seulement les jeunesses européennes, dans le monde entier, il va parler dans les universités, il va parler aux jeunes.
Et dialogue.
Pour
même.
Se faire applaudir.
Et il dialogue
et il montre à quel point il est dynamique, à quel point il est de leur côté face au vieux monde. Et là, en fait, il est le vieux monde. C'est-à-dire qu'il est l'incarnation d'un pouvoir qui n'écoute pas le mouvement social et d'un pouvoir qui a un bilan sur l'écologie.
On fait pas assez sur l'écologie.
Je suis pas certaine de... Enfin, qu'il y ait, une position politique de la part de ces étudiants qui soit particulièrement pointue, et elle serait forcément contestable sur les questions notamment d'écologie. On sait très bien qu'il y a des groupes radicaux qui d'ailleurs traversent l'Europe entière. Je veux dire, Sainte-Soline, c'était pas que des militants écologistes français.
Non.
Il y avait de tout. Donc,
c'est pas étonnant
qu'ils soient chahutés.
Là, on avait l'impression que c'était plutôt de genre des Erasmus français
trouvant
là. Il y a beaucoup d'étudiants français.
L'image, elle est là, c'est-à-dire qu'il n'incarne plus la nouveauté et la jeunesse. Alors, incarne-t-il autre chose? Sait-il porter un discours qui soit un discours, on va dire, d'une... représentant la troisième voie française? Ça, c'est ce
donc
qu'on pourrait
souhaiter.
Donc,
vous êtes en train de dire qu'il prend un coup de vieux lorsqu'il est interpellé par des jeunes?
Moi, ça me pose aucun problème. J'ai jamais fait de jeunisme. Mais c'est vrai que c'est pour lui qui était censé incarner ça.
Dans un pays où la réforme des retraites passera en 2024-2025 à 67 ans aussi, les Pays-Bas.
Il l'a dit d'ailleurs, il a repris le fil de son discours, il a dit, je ne comprends pas, en gros, pourquoi les Français sont énervés contre moi, parce que ici, dans ce pays, c'est 67 ans.
Ça, c'est... Enfin, je veux dire, quand on regarde la presse internationale, il faut bien se rendre compte qu'ils observent la France avec des yeux complètement écarquillés, en disant, mais pourquoi est-ce qu'ils refusent ça? En Espagne, ils sont en train de prendre des mesures bien pires. Alors, bon, incontestablement, alors je suis tout à fait d'accord avec Natacha sur le fait qu'il incarnait la jeunesse et un renouveau, qui n'incarne plus la jeunesse, même s'il n'est pas vieux, et que pour le renouveau, disons qu'en ce moment, il est en train de hoqueter. Bon,
oui,
bah c'est
mais
comme ça.
Ce qui est dommage là-dessus, c'est que du coup, on va se focaliser sur, en effet, cet incident, au lieu de parler du rôle des Pays-Bas en Europe. Parce que là, il y aurait un sujet énorme.
Désolé de vous interrompre, on va aller à La Haye, puisqu'on a vu Mathieu Coache, notre reporter, échanger quelques mots avec le chef de l'État. Que vous êtes-vous dit avec le président de la République, Mathieu?
Non, simplement, voilà, le président de la République a hésité quelques instants à donner une petite conférence de presse et finalement, par souci d'équité, parce qu'il n'y avait pas toutes les caméras présentes, il a reporté à demain. Vous savez qu'il donnera une conférence de presse demain. Donc, je suis revenu sur cet incident qui a eu lieu dans l'amphithéâtre. Vous avez remarqué qu'il avait été un petit peu rattrapé par la réforme des retraites ici aux Pays-Bas. Et écoutez, il a plutôt minimisé l'incident en m'expliquant qu'il y avait 5 étudiants effectivement qui avaient pris la parole sur une salle de 200. Que ça n'avait pas duré très longtemps et qu'il était d'ailleurs favorable à ce que ce type de personnes puissent s'exprimer si elles le souhaitent. Le problème, m'a-t-il dit, c'est quand il y a des violences, et effectivement il n'y avait aucune violence, d'ailleurs ces manifestants sont sortis assez calmement, ils n'ont pas résisté non plus quand le service d'ordre leur a demandé de partir. J'ai fait remarquer au président que en France, ou en tout cas dans les communautés françaises à l'étranger, ça ne se passait pas toujours aussi facilement. Rappelez-vous de ce manifestant, c'était même pas un manifestant d'ailleurs, cet homme qui avait un t-shirt à Barcelone, à la communauté française de Barcelone, lorsque le président de la République prononçait un discours, et qui avait été évacué manu militari, qui était resté plusieurs heures dans une pièce parce qu'il avait un t-shirt contre la réforme des retraites. Il ne s'était pas exprimé, il n'avait pas levé la voix, et Emmanuel Macron a reconnu que c'était peut-être d'ailleurs une erreur d'avoir procédé à cette interpellation. C'en était une, puisqu'il était resté avec la sécurité quelques heures. Voilà, donc Emmanuel Macron qui minimise un peu et qui dit que finalement tout ça est de bonne guerre et que c'est normal que ça puisse arriver. Et il y a encore des manifestants à l'extérieur qui étaient assez bruyants quand Emmanuel Macron est sorti il y a quelques minutes. Il y en avait avant son arrivée sur le passage du cortège. On peut aussi souligner que la sécurité, tout simplement, est différente de ce qu'on voit en France. Pour suivre beaucoup de voyages présidentiels, eh bien, ça ne se passe pas comme ça en France. On tient les manifestants beaucoup plus à l'écart. Les cordons de sécurité sont beaucoup plus large. Et donc, aux Pays-Bas, ici, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises.
À Mathieu Coache, à La Haye, avec Nils Cambier pour BFM TV.
Alain Duhamel.
Oui, enfin, il ne faut pas non plus en faire toute une histoire. Je veux dire, c'est comme dans le genre incident diplomatique d'un président français à l'étranger. C'est une plaisanterie à côté, par exemple, de Jacques Chirac à Jérusalem, quand il s'était réellement alpagué, y compris physiquement.
Et menacé
de repartir tout de suite en avion avec la sécurité israélienne.
What do you want?
Ça existe, un genre de choses. Et voilà, c'est dans les démocraties. C'est comme ça, dans les démocraties, on exprime ses ressentiments, ses querelles, ses critiques et ses rejets. Bon, ben voilà, c'est peut-être sans doute pas agréable pour lui, mais c'est la démocratie.
Natacha. Il y a un point à souligner, le but de ce voyage, c'est pas dans n'importe quel pays. Les Pays-Bas, c'est, on va dire, la tête de pont du libre-échange, c'est-à-dire c'est un des pays qui défend le plus farouchement la libre circulation des hommes des capitaux. Je rappelle juste un point. Les Pays-Bas ont une balance commerciale qui est déficitaire vis-à-vis de la Chine pour 90 milliards par an, si ma mémoire est bonne. C'est 225 de balance positive vis-à-vis du reste de l'Europe, c'est-à-dire qu'en fait, les Pays-Bas importe des produits chinois et ensuite les dispatch dans toute l'Europe, et ils défendent ce modèle d'ouverture totale des frontières. Et donc l'enjeu de ce que vient faire Emmanuel Macron, c'est de leur expliquer qu'il faut être une puissance industrielle et que pour ça, il faut défendre nos entreprises. Va-t-il y arriver ? Je pense que c'est beaucoup plus important pour l'avenir des citoyens français que c'est la question de cet incident. Accessoirement, c'est le pays qui a le plus industrialisé l'agriculture, malgré son image de pays écolo, etc. Donc, c'est un pays qui défend une orthodoxie budgétaire et une guerre commerciale. Donc, il y a un sujet majeur avec les Pays-Bas. J'espère qu'à un moment, c'est de ça dont il va s'agir à propos de ce voyage.
Pour glisser un mot dans tout ça, et pour en rajouter sur Natacha, ce qui est assez rare, les Pays-Bas, c'est aussi un endroit dont la fiscalité des entreprises est telle que de très nombreuses grandes entreprises françaises, y compris très respectées, y établissent leurs sièges sociaux pour faire baisser leurs impôts.
Merci Alain, c'est vrai que je ne sais pas comment j'ai pu oublier cette dimension-là,
scandaleux. Je me disais que votre raisonnement implacable, hebdomadaire d'ailleurs, serait incomplet. Alors je volais à la rescousse.
Autre dimension qui nous intéresse aussi cette semaine, c'est le fait qu'on soit dans une semaine peut-être capitale, cruciale, décisive, appelons-la comme vous voulez, pour la réforme des retraites du gouvernement. La 12e journée d'action, c'est jeudi, la décision du Conseil constitutionnel vendredi. On sait que Madame Borne joue sûrement aussi son avenir rue de Varenne à l'hôtel de Matignon. Et pourtant, on a pu lire dans Le Parisien qu'elle pensait encore être utile au pays. Alors Alain, est-ce que Madame Elisabeth Borne, première ministre de sa fonction, s'accroche à Matignon comme une arapède à son rocher ?
Écoutez, on ne squatte pas l'hôtel de Matignon. Ça n'est pas parce qu'on y est entré qu'on a le droit d'y rester. Bon, quand on écoute ses confidences, quand on lit les messages qu'elle a, les mises au point qu'elle a échangées avec Emmanuel Macron, il n'y a aucun doute, elle a très envie d'y rester. On voit très bien pourquoi elle a très envie d'y rester, parce qu'elle estime, à tort ou à raison, ça on peut vraiment discuter, qu'elle a mené la politique la plus souple, la plus pragmatique et la plus ouverte possible pour essayer d'amortir le choc des retraites. D'autre part, ce qui est plus convaincant, qu'elle est quand même le premier ministre à avoir expérimenté une situation politique telle que celle qu'on connaît maintenant. Et que ça n'est vraiment pas commode. Puis sans doute se dit-elle que ceux qui ont envie de la remplacer ne sont pas forcément meilleurs qu'elle. Le problème, c'est que ça n'est pas elle qui choisit. C'est Emmanuel Macron. Et que Emmanuel Macron, d'une part, je ne suis pas sûr qu'il soit globalement satisfait de la façon dont se sont passées les négociations depuis le mois de septembre. Dès le départ, il y a eu vraiment deux lignes différentes. Lui qui était intransigeant, et Elisabeth Borne qui avait envie de négocier, d'arrondir, de faciliter, etc.
Mais elle n'a pas l'image de la rondeur aux yeux des Français.
Ben non, oui, mais dans la réalité, avec les syndicats, voyez ce que Laurent Berger a dit lui-même. Il considère que c'est quelqu'un... Enfin, en clair, Laurent Berger considère que c'est plus facile de discuter avec Elisabeth Borne qu'avec Emmanuel Macron. Bon, et la décision, ça va être Emmanuel Macron, et donc... Il n'a pas forcément le même bilan. Il ne considère pas de la même façon le bilan d'Elisabeth Borne que l'intéressé, qu'Elisabeth Borne elle-même. Puis d'autre part, quand il y a une crise comme celle-là, il faut trouver une issue. Et pour trouver une issue, classiquement, quand le président de la République, quel qu'il soit, est en cause, l'issue, c'est de trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, a priori, c'est Elisabeth Borne, mais on aura un élément très important avec la réponse du Conseil constitutionnel vendredi.
Vendredi, bien entendu. Natacha Polony.
Quand Elisabeth Borne dit « je crois que je peux être encore utile au pays », ça veut dire que ça sent pas bon. Bah ça veut dire qu'elle a elle-même conscience que, a priori, quand Emmanuel Macron, au moment de déclencher le 49-3, a expliqué aux députés Renaissance réunis à l'Élysée qu'elle avait un mois pour élargir la majorité, ça voulait dire clairement qu'il y avait une date butoir. Bon, donc quant à ceux qui veulent la remplacer, parce qu'il y en a, au cabinet de Gérald Darmanin, on explique qu'elle est transparente, on voit à travers. Ce qui est une façon élégante de dire que bon, hein, on essaye de
élégante,
tout faire. Enfin, élégante, c'était ironique.
Ironique, oui, non,
c'était
mais ironique, j'ai bien compris.
Gérald. Bref, la question qui se pose, c'est qu'Elisabeth Borne a tout tenté pour faire ce pour quoi elle avait été prise, c'est-à-dire rester une technicienne qui sait négocier et surtout ne pas faire de politique au sens où elle devait simplement porter cette réforme. C'était intenable. Pourquoi ? Parce qu'en gros, elle avait le mandat de négocier alors même qu'il n'y avait rien à négocier. Donc, c'était perdu d'avance avec, en plus, celui qui l'a choisi, qui est Alexis Kohler, qui est en fait Premier ministre en chef. Donc, ça ne donne pas une autonomie et une marge de manœuvre totale. La question est de savoir si ça continue à convenir à Emmanuel Macron dans la mesure où, en fait... Il n'a jamais voulu vraiment avoir de véritable politique à l'Élysée. Quand ils le deviennent, ça le dérange. Est-ce que, au contraire, il va se dire que maintenant, il faut récupérer les députés, les Républicains, et que donc, il faut trouver quelqu'un qui soit un peu plus politique? Ça ne changera rien au problème. Emmanuel Macron a grillé des cartouches et s'est mis dans une situation qui est intenable pour le pays. Et maintenant, il peut faire tous les numéros de claquettes qu'il veut et faire payer ça à Elisabeth Borne. C'est l'erreur.
Oui, alors si vendredi, le Conseil constitutionnel valide la réforme.
Justement,
finalement, Madame Borne obtient peut-être un sursis.
Alors, je vous réponds, mais ensuite je réponds à Natacha.
Mais c'est pour avancer.
Ça serait mal élevé de
bien
ne pas
sûr, lui répondre. Bien sûr, mais avançons.
Oh, bah oui.
Bon, vendredi, deux choses une. Ou bien le projet est globalement validé. Laissons de côté les cavaliers qui ont été mis là pour sauter et donner l'impression que ça n'est pas unilatéral. Ou bien il est validé. Et c'est quand même bon pour Elisabeth Borne et ça lui donne une chance, en tout cas, de rester à son poste encore un certain temps. Ou bien il est censuré, et là, évidemment, on dira, c'est elle qui menait les négociations, donc, etc., il faut changer. Il y a aussi la question du référendum. Parce que si le référendum d'initiative partagée, si il est accepté par le Conseil constitutionnel, s'ouvre une période qu'on n'a jamais connue, qui va durer d'abord 6 mois, puis ensuite jusqu'à 9 mois, enfin 9 mois plus 6 mois d'ailleurs, plus exactement, mais dans lequel on va assister à un phénomène où on verra tout le temps tous les syndicats, les partis d'opposition en train de ramasser des voix, faire campagne. On va avoir une campagne d'un an.
Et une réforme qui ne pourra pas être appliquée.
Si, la réforme peut être appliquée, mais je suppose que les décrets d'application resteront dans des tiroirs un certain temps. Mais en tout cas, on aura vraiment une campagne d'un an. Et cette campagne d'un an, il est probable que c'est à un politique, bon ou mauvais, qu'on demandera de la mener, plutôt qu'à Elisabeth Borne. Bon, si en revanche, ce qui est possible, le référendum d'initiative partagée n'est pas accepté, à ce moment-là, elle a des chances de rester encore un certain temps.
Est-ce que vendredi,
Vous remarquez que je ne lui ai pas répondu.
Non, mais on continue. Mais est-ce que vendredi, c'est pas fini?
Non, ça ne peut pas être fini pour une raison simple, c'est que les décisions du Conseil constitutionnel seront parfaitement légales, légitimes, tout ce qu'on veut. Elles ne régleront pas le problème politique qui a été ouvert par ce moment et par ce choix d'Emmanuel Macron. Regardez, le Conseil, c'est d'ailleurs très inquiétant parce qu'en fait, ça risque de fragiliser le Conseil constitutionnel lui-même. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous avez maintenant des attaques d'une violence franchement inquiétante contre les membres du Conseil constitutionnel.
Notamment, mais pas que lui.
Leurs noms sont cités, etc.
Sur les réseaux sociaux, je ne vois pas qui n'est pas l'objet d'attaques violentes.
Non, là, moi, je n'ai jamais vu ça. Et il y a d'ailleurs un problème qui est que, par exemple, quelqu'un comme Alain Juppé est celui qui, en 96, a fait passer cet article 47.1 qui a permis, là, à Emmanuel Macron de faire passer cette réforme. Donc, il est à la fois jugé parti, ce qui va évidemment faire peser un doute sur une décision qui est censée être une décision purement juridique. Donc, ça va mettre le Conseil constitutionnel dans une position difficile. Bon, ils savent, je pense qu'ils le savent, savent qu'ils seront critiqués quoi qu'il arrive et ils s'en fichent. C'est pas le problème. En revanche, dans le rapport que les Français ont aux institutions, ça ne résoudra rien, voire ça empirera. Il faut ensuite une sortie politique.
Alors, comment est-ce qu'on sort politiquement de cette crise par rapport à ce que dit Natacha, alors?
D'abord, je pense qu'on ne sortira de cette crise que dans un an, de toute façon. Oui, je pense qu'on...
Est-ce que Mme Borne sera là dans un an?
La crise... écoutez, je ne vais pas reprendre mon raisonnement, mais il y a une chance qu'elle reste... un an, je ne sais pas, mais en tout cas, encore quelques mois, si effectivement le projet est accepté globalement par le Conseil constitutionnel. Dans le cas contraire, je ne vois pas du tout comment elle pourrait rester. Mais pour en revenir à ce que disait Natacha, le Conseil constitutionnel, évidemment, il va être attaqué. Je ne suis pas sûr que ça bouleverse l'équilibre démocratique français. En revanche, je pense que ça fait partie du climat qui est en train de s'installer et qui est un climat extrêmement dangereux.
Malsain.
Où les institutions sont contestées, où le président est extrêmement critiqué et où ce qui est peut-être le pire de tout et qui alimente le reste d'ailleurs, la situation politique est bloquée comme elle ne l'a jamais été sous la Ve République, avec ce qu'on appelle la tripartition. On est sûr que on faisait une dissolution, on ne ferait que la renforcer. C'est-à-dire qu'on est vraiment un pays sans majorité, avec un président qui est contesté, y compris aux Pays-Bas.
Merci Alain Duhamel, merci Natacha Polony. La une du magazine Marianne, de l'hebdomadaire dont vous dirigez la rédaction.
Et ce sera justement sur Gérald Darmanin, sur sa stratégie, pas seulement sur le maintien de l'ordre, mais aussi peut-être pour se diriger vers Matignon.
Merci Alain, merci Natacha.